France Culture, il est 12h30. Le journal, signé Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron célèbre depuis ce matin le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, dont il n'a cessé de se revendiquer depuis le début de son quinquennat, mais dont tous ses adversaires à droite comme à gauche se prétendent eux aussi les héritiers. Invité de ce journal, Damien Abad, chef de file des députés Les Républicains. Après de nombreux intermoiements, le ministère de l'Éducation a fini par acter hier soir l'assouplissement du protocole sanitaire devant permettre les conditions d'un retour obligatoire des élèves à partir de lundi. Nous verrons ce qu'en pense notamment la Fédération des conseils de parents d'élèves. En vente seulement depuis lundi, le bac Locure était synonyme d'espoir pour les 3 millions de Français qui souffrent aujourd'hui d'addiction à la boisson. Sauf qu'hier, la justice a finalement ordonné l'arrêt des ventes. Les États-Unis ont unilatéralement annoncé la suspension des négociations internationales sur la taxation du numérique. Et puis toujours aux États-Unis, à 4 mois et demi de la présidentielle, et alors que Donald Trump semble dévisser dans les sondages, un nouveau livre à paraître mardi vient écorner encore un peu plus l'image du président américain. Enfin, nous retracerons le portrait de ce pionnier de la lutte indigène pour la défense de la forêt amazonienne, le chef Paulino Payacan, cacique du peuple Kayapo, décédé hier après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus. Après avoir saisi l'occasion de célébrer l'esprit français de résistance et appeler ses concitoyens à l'unité nationale pour sortir de la crise engendrée par l'épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron ira donc une nouvelle fois aujourd'hui à la rencontre du général en consacrant toute sa journée à la mémoire de cet acte fondateur du mythe gaullien, l'appel du 18 juin 1940. Et pour célébrer ce 80e anniversaire, le programme s'annonce pour le moins chargé après une visite ce matin au musée de l'Ordre de la Libération. Le chef de l'État a assisté à la traditionnelle cérémonie au mémorial du Mont Valérien et il devrait désormais bientôt s'envoler pour Londres afin d'y remettre une légion d'honneur à la capitale du Royaume-Uni. Autant dire une journée à la portée symbolique évidemment très forte, mais qui dans le contexte actuel et fonction des impératifs politiques du moment n'est pas sans soulever quelques interrogations. Tout d'abord, parce que cet anniversaire censé célébrer l'amitié franco-britannique intervient en plein divorce, comprenez, dans l'atmosphère troublée de l'actualité liée au Brexit. Et ensuite, parce qu'au regard du récit lié au 18 juin, revendiqué même implicitement l'héritage du général pour exhorter les Français à l'unité nationale en ces temps agités, révèle sinon une contradiction, à tout le moins une approximation. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
En entrant en dissidence, le général de Gaulle n'a jamais fait de l'unité la condition de son action, puisqu'il cherchait tout au contraire à rallier et non à rassembler. Dès lors, où se place aujourd'hui Emmanuel Macron ?
C'est l'esprit de la République, l'esprit de la résistance que célébrera Emmanuel Macron cet après-midi, dans la continuité du message de Montcornet le mois dernier, où dans une allusion à la crise sanitaire, il avait appelé à l'unité de la nation. Tout à l'heure, c'est un message de remerciement qui sera adressé à Londres et aux Britanniques qui ont offert l'asile au général et aux combattants de la France libre. Alors bien sûr, dans les mots, dans les symboles, ces commémorations ont valeur politique. L'appel à la résistance, le refus de la défaite de juin 40 a une résonance particulière aujourd'hui dans un pays fracturé où il semble difficile de réconcilier les Français. Mais Emmanuel Macron, président de la République, est dans son rôle lorsqu'il célèbre aujourd'hui la mémoire du chef de la France libre. L'occasion lui est donnée de prendre de la hauteur à l'occasion de cette année de commémoration et de s'inscrire dans les pas du général, homme providentiel et de rassemblement, rempart contre les extrêmes, et lorsqu'il se fait le défenseur de la souveraineté de la France dans ses dernières allocutions. Chaque moment de la vie politique permet de revendiquer l'héritage du général de Gaulle. Tous les présidents de la Ve République, ou presque, ont tenté de capter cet héritage, avec le risque à chaque fois d'être accusé de récupération.
Merci Pierre Neveu. L'Assemblée nationale a voté hier le projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire après le 10 juillet, avec toutefois une période de vigilance durant laquelle des restrictions resteront possibles sur la circulation des personnes, l'accueil du public dans certains établissements ou bien encore les rassemblements, et ce jusqu'au 30 octobre. Le texte a été adopté en première lecture avec le soutien des élus LREM, Modem et Agir. En revanche, toutes les oppositions de gauche comme de droite ont dénoncé un texte liberticide. Le projet de loi doit à présent être examiné au Sénat. Ce sera lundi prochain. Sinon, son allocution dimanche soir, le chef de l'État n'avait pas laissé de place au doute. La reprise de l'école se fera de manière obligatoire à compter du 22 juin, à l'exception toutefois des lycées. Restait à savoir dans quelles conditions. Eh bien, hier soir, le ministère de l'Éducation a donc publié un nouveau protocole sanitaire validant la suppression des règles de distanciation physique en maternelle et une relative souplesse en élémentaire comme au collège. En l'occurrence, la règle d'une surface de 4 mètres carrés par élève est abolie. En revanche, il sera toujours recommandé de faire respecter un mètre entre les élèves. Et si la configuration des salles de classe ne le permet pas, alors l'espace sera organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. Autant dire que ce nouveau protocole pose toujours donc des questions pour le coprésident de la FCPE, Rodrigo Arenas. La distanciation et le non-brassage des élèves ne pourront pas être respectés. Voilà pourquoi, selon lui, il faut donc aller plus loin en envisageant, par exemple, de faire cours dans d'autres lieux que les seules salles de classe. Il le dit à Yvan Plantet.
Accueillir les enfants, pas seulement dans l'école, mais dans tous les lieux publics, pour que tous les enfants puissent être pris en charge par la puissance publique, c'est aussi le moyen de faire en sorte que des professionnels dont c'est le métier puissent prendre en compte les fragilités de certains enfants. Par exemple, des psychologues pour les enfants qui ont été confrontés au deuil. On sait que ça existait. Des éducateurs spécialisés, par exemple, qui travaillent aussi avec les juges pour enfants, dont c'est le métier que de libérer une parole d'enfants qui, par exemple, ont été victimes de maltraitance, ou encore tous les enfants porteurs d'handicap qui ont vécu un enfermement pour certains extrêmement difficile. Et c'est aussi l'occasion de permettre aux parents de souffler. Donc la question qui se pose n'est pas d'accueillir les enfants dans les écoles, mais c'est d'accueillir les enfants tout court. Et ça, c'est au gouvernement de donner une solution, car c'est à lui de mettre en œuvre l'injonction très claire qui a été donnée par le président de la République à l'ensemble des Françaises et des Français, et en l'occurrence des parents et des élèves.
Voilà, Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, il répondait à Yvan Plantet. En applaudissant hier le dernier convoi de pièces du plus gros avion du monde, les résidents du village de Lévignac, près de Toulouse, savaient qu'ils assistaient là aussi à un événement sonnant probablement le glas d'une ère de l'aviation, l'arrêt de la production de la 380, dont les commandes étaient en perte de vitesse depuis quelques années déjà. Un décrochage d'autant plus éloquent à l'heure où l'aéronautique européen se retrouve aujourd'hui durement affecté par la crise du coronavirus. Et puis c'est encore dans ce contexte, celui donc de l'effondrement du trafic aérien, rien provoqué par la pandémie, qu'on a appris hier que la compagnie Air France envisagerait de supprimer 8000 à 10 000 postes d'ici 2022. Ce chiffre, avancé par les syndicats, représenterait le cas échéant entre 15 et 20% des effectifs. Toutes les catégories de salariés seraient concernées, en première ligne les personnels au sol, mais aussi les hôtesses de l'air et stewards, de même que les pilotes. Aussitôt, l'État, actionnaire, a prévenu qu'il regarderait avec attention la situation sociale et exhorter la compagnie à ne pas engager de départ contraint. Rappelons que la compagnie a bénéficié le mois dernier d'un prêt garanti de 7 milliards d'euros. Reste que les syndicats du groupe, eux, craignent d'ores et déjà qu'il n'y ait pas suffisamment de départs volontaires. Peut-on d'une même main protéger l'environnement, réduire les factures des Français et créer des myriades d'emplois face à la crise? La Convention citoyenne pour le climat en France rendra définitivement ses premières propositions en fin de semaine à l'issue de 3 jours de débats. Et puis investir massivement pour une relance énergétique créatrice d'emplois favorable au climat et à la croissance, c'est également l'équation complexe qu'entend résoudre l'Agence internationale de l'énergie avec son plan post-Covid-19 présenté aujourd'hui. L'été dernier, les images de gigantesques feux de forêt dévastant la plus vaste forêt tropicale du monde avaient suscité, on s'en souvient, une immense émotion. Eh bien, la saison sèche est de retour en Amazonie. Or, en cas d'incendie, et au-delà de la catastrophe écologique, la fumée pourrait cette fois-ci aggraver un peu plus encore la situation sanitaire dans une région déjà fortement affectée par la pandémie de Covid-19. Rappelons que le Brésil, qui concentre sur son territoire environ 60% de la forêt amazonienne, est aujourd'hui un des principaux foyers de contamination au monde, avec plus de 37 000 morts. Alors, en l'occurrence, l'Amazonie est tout particulièrement touchée, tout d'abord parce qu'elle compte très peu d'hôpitaux, mais aussi une population autochtone extrêmement vulnérable face aux maladies venues de l'extérieur. Et c'est ainsi qu'on a appris hier la mort de l'un des plus ardents défenseurs justement de la forêt amazonienne, le chef indigène Paulinho Payacan, victime du coronavirus. Son portrait est signé Nadine Epstein.
Le décès du chef indigène s'ajoute aux 287 indigènes morts du Covid-19 et depuis 3 mois, 5500 autochtones ont été contaminés. Payakan représentait un père, un chef et un guerrier Kayapo. Sectagénaire, il a consacré sa vie aux peuples indigènes pour les unir et pour sauver l'Amazonie. Pionnier dans cette lutte, il était devenu célèbre en mobilisant les peuples indigènes brésiliens et des célébrités internationales comme le chanteur Sting dans les années 80 en contestant la construction du projet hydroélectrique du Belo Monte. Payakan estimait que ce troisième plus grand barrage au monde détruirait la forêt et ses rivières, il priverait les tribus indiennes de territoire et de moyens de subsistance. Les Kayapo déclaraient « Nous ne voulons pas que ce barrage détruise les écosystèmes et la biodiversité dont nous avons pris soin depuis des millénaires et que nous pouvons continuer à préserver ». Bien que la Banque mondiale ait finalement retiré ses financements au barrage, sa construction a été achevée en 2011 dans l'état du Pará. 40 000 personnes ont été déplacées. La ville d'Altamira détient le plus triste record de la déforestation en Amazonie. Ces dernières années, Payakan militait toujours pour défendre la forêt amazonienne et s'opposer aux objectifs du président brésilien Bolsonaro de la transformer en lieu d'activité agricole et minière. Mais d'autres caciques Kayapo, en particulier le chef Raoni et son fameux plateau labial, l'ont remplacé sur la scène internationale.
La reprise de l'épidémie due au nouveau coronavirus à Pékin a été maîtrisée. C'est du moins ce qu'a précisé ce matin l'épidémiologiste en chef du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies. Pour autant, après 50 jours sans nouvelle contamination et quand bien même les autorités ont soigneusement pris soin d'éviter d'annoncer explicitement la mise en quarantaine de la capitale, voilà près d'une semaine que la vie des Pékinois a de fait basculé après la découverte de nouveaux cas dans un marché, circulation restreinte, école fermée et quartiers résidentiels confinés. On savait les relations sino-américaines déjà tendues et rythmées par la guerre commerciale engagée par le président américain. Hier, nouveau signe du gel qui règne actuellement entre Washington et Pékin, Donald Trump a promulgué une loi pour sanctionner des responsables chinois accusés de l'internement de masse des musulmans ouïghours. Quant au chef de la diplomatie américaine, il a lui publié un communiqué commun avec ses homologues du G7 pour exhorter fermement la Chine à revenir sur sa loi controversée sur la sécurité à Hong Kong. Alors il se trouve qu'au même moment, Mike Pompeo était à Hawaï pour y rencontrer un haut responsable chinois lors d'une réunion de crise qui n'aura à l'évidence pas suffi à apaiser les tensions. Et puis ce face-à-face était également scruté d'autant plus près à Washington qu'il intervenait après la publication de plusieurs extraits d'un livre signé de l'ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, qui accuse le milliardaire républicain d'avoir cherché l'aide de la Chine pour décrocher sa réélection en novembre. Les précisions de notre correspondant Grégory Phillips.
592 pages pour résumer 17 mois passés à la Maison Blanche. L'ancien conseiller John Bolton, le conservateur va-t-en-guerre qui en janvier avait refusé de témoigner devant le Congrès dans le cadre du procès en destitution de Trump, raconte ce qu'il a vu et entendu dans le bureau ovale. Bolton y décrit un Donald Trump obsédé par ses intérêts personnels. En marge du sommet du G20 à Osaka il y a un an, il demande à son homologue chinois Xi Jinping d'acheter plus de soja aux agriculteurs américains afin, affirme Bolton, de faciliter sa réélection en novembre prochain. John Bolton décrit aussi un président erratique et mal informé qui semble ignorer que le Royaume-Uni est doté de l'arme nucléaire ou qui pense que la Finlande appartient à la Fédération de Russie. La Maison-Blanche a tenté de faire interdire l'ouvrage au motif qu'il contiendrait des informations classées défense, mais pour l'instant, le livre sort mardi, il est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon, et dimanche soir, John Bolton sera l'invité de la chaîne ABC. Est-ce que le président ment ? Oui, bien sûr, et ce n'est pas la première fois. John Bolton. Il est l'homme que le président veut faire taire, dit la bande promo qui déjà tourne en boucle.
Et j'ajoute qu'un autre livre à charge contre Donald Trump doit lui être publié fin juillet, celui de sa nièce Mary Trump, laquelle promet de dévoiler les secrets de la richesse de son oncle et notamment ses fraudes fiscales. 5 jours après avoir abattu Richard Brooks à Atlanta de 2 balles dans le dos, drame qui a ravivé les appels extrêmement pressants à réformer les forces de l'ordre aux États-Unis, le policier à l'origine des coups de feu mortels, Garrett Rolfe, a été inculpé hier de meurtre. Il encourt la peine capitale. capitale. Et puis sans doute aidé par la pression de la rue, les marques Tante Jemima et Uncle Ben's ont enfin réalisé que l'époque avait changé et donc décidé de faire peau neuve, les deux visages noirs au sourire éclatant ornant leurs emballages comme autant de stéréotypes afro-américains datés devraient bientôt disparaître des rayons des supermarchés américains. Toujours aux États-Unis, le cofondateur de Netflix et sa femme ont annoncé hier qu'ils allaient décerner 120 millions de dollars à des universités traditionnellement noires. De son côté, Google a annoncé qu'il allait verser 275 millions de dollars à différentes causes permettant de lutter contre la discrimination raciale. Parce que Google, justement, mais aussi Apple, Facebook et Amazon sont régulièrement accusés de ne pas payer leur juste part d'impôts. Des discussions sous l'égide de l'OCDE devaient aboutir d'ici la fin de l'année à un accord mondial pour taxer les GAFA. Sauf que cette pomme de discorde récurrente entre Washington et Paris, notamment, se retrouve à présent dans l'impasse après la pause dans les négociations annoncées hier par les États-Unis. Une décision, Catherine Pétillon, aussitôt qualifié de provocation par la France.
On était à quelques centimètres d'un accord, a déploré ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire, soulignant que ce coup d'arrêt dans les discussions intervient alors même que les géants du numérique sont les seuls au monde à avoir tiré d'immenses bénéfices de la pandémie. Cela fait en réalité des mois que les États-Unis se montrent réfractaires à l'instauration de nouvelles règles fiscales et ce retrait est un coup dur pour la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Italie, parmi les premiers pays européens à pousser pour un nouveau système de taxation permettant de faire payer leurs impôts aux géants du numérique. Qu'est-ce que c'est que cette manière de traiter les alliés des États-Unis en nous menaçant systématiquement de sanctions ? A poursuivi Bruno Le Maire. Déjà il y a quelques mois, après la création d'une taxe française, l'administration Trump avait engagé un bras de fer menaçant de taxer à 100% un certain nombre de produits français importés comme le champagne ou le fromage. Pour éviter une guerre commerciale, la France avait alors suspendu les paiements des acomptes de cette taxe et différé son application à décembre 2020 pour laisser à l'OCDE le temps de trouver un accord international. L'épidémie avait provoqué du retard dans les discussions. Cette fois, c'est tout le processus qui est bloqué par cette décision américaine. Or, si l'accord de l'OCDE génère tant d'attentes ou de tensions, c'est parce que les règles fiscales actuelles ne permettent pas de taxer correctement les profits réalisés à distance, c'est-à-dire par une entreprise qui n'est pas présente physiquement sur un territoire, ce qui est le cas de tous les géants américains qui profitent du marché européen sans payer leurs impôts. Si les États-Unis ne reviennent pas sur cette décision, nous appliquerons notre taxe nationale, a précisé Bruno Le Maire.
Nous vous l'annoncions en début de semaine, épilogue d'une longue controverse entre ces fervents partisans d'un côté et les autorités sanitaires de l'autre. Le baclocure devait être le premier médicament à base de baclofène indiqué dans le traitement de l'alcoolisme à être commercialisé en France. Mais c'était là, sans compter un ultime rebondissement dans cette véritable saga médicale. Hier, Tara Schlegel, la justice a finalement tout stoppé.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise vient de donner raison à une association de malades qui estime que la nouvelle formule, commercialisée depuis lundi, ne peut pas être prescrite à une dose assez forte. Les autorités demandent en effet aux médecins de ne pas dépasser 80 mg par jour, ce qui n'est pas suffisant pour tous ceux qui souffrent d'une dépendance à l'alcool, rappelle le psychiatre Jean-Michel Delisle, président de la Fédération Addiction.
Ce sont vraiment des patients qui ont vraiment besoin du baclofène et qui ont constaté, alors pour certains avec surprise, que ce qui pouvait passer pour une réelle avancée, c'est-à-dire cette mise sur le marché d'une spécialité, donc le baclocure, avait eu pour effet collatéral négatif d'interdire, enfin d'empêcher l'accès au baclofène générique qui jusqu'alors était utilisé de manière dérogatoire dans les problèmes liés à l'alcool et jusqu'à des posologies de 300 mg. Il faut être toujours attentif aux demandes des patients. Donc le fait que le sujet revienne ainsi sur la table n'est pas, à mon sens, une mauvaise chose.
Pour l'instant, on en revient donc à l'utilisation temporaire du baclofène générique, possible depuis 2014 et jusqu'à lundi dernier. Les juges ont estimé qu'il ne fallait pas confronter les malades à un risque de rupture de traitement, mais c'est une décision en référé. Ils vont, dans un deuxième temps, trancher sur le fond. En tout cas, c'est un coup dur pour le laboratoire Ethypharm, qui était en plein lancement de son médicament avec l'envoi des brochures explicatives aux médecins. Symboliquement aussi, c'est un recul, même s'il est porté par les malades. Il faudra voir maintenant si l'agence du médicament est capable de revenir sur ses réserves initiales.
Comme chaque jeudi, à présent, l'invité politique de la rédaction, Damien Abad, chef de file des députés Les Républicains. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne. Première question, monsieur Abad, j'évoquais en début de ce journal la célébration du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Or, il ressort aujourd'hui que nombreux sont ceux sur l'échiquier politique à se revendiquer du général de Gaulle, de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous inspire cette forme de récupération tous azimuts ?
Écoutez, je crois que la figure du général mérite mieux qu'une récupération politique. Il était le premier des Français, il est le plus grand homme d'État de l'histoire récente. Il est aussi le fondateur et la figure tutélaire de notre famille politique. Et moi, je retiens de lui avant tout l'homme du 18 juin, celui qui disait que la flamme de la résistance ne doit jamais s'éteindre, ne s'éteindra jamais. Et donc cet esprit-là de résistance des Français qui doit aujourd'hui toutes et tous nous rassembler et être fiers de tout simplement d'avoir tous une part de gaullisme en nous.
Question d'Anne Fauquemberg.
Vous sortez de la commission d'enquête sur l'impact, la gestion et les conséquences de l'épidémie du coronavirus. C'est Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, qui s'exprime en ce moment même. Vous l'aviez déjà entendu à l'occasion de la mission d'information. Qu'est-ce que vous avez compris de plus ce matin et que vous pouvez apporter à notre éclairage? Je pense notamment au port du masque, au test. Vous venez de poser une question à ce sujet.
D'abord, c'est une audition absolument passionnante. On a compris ce matin qu'on n'aurait plus de confinement généralisé si jamais il y avait une deuxième vague. On a compris qu'on n'aurait pas un confinement par territoire non plus, parce que c'est très difficile de maintenir, de mettre des frontières au sein d'un État. On a compris qu'on aurait un confinement par classe d'âge, en fonction des populations dites fragiles, si jamais une deuxième vague arrivait. On a compris aussi qu'il fallait démultiplier les tests et que la politique de tests très restrictive de la France était une grave erreur, comme l'OMS l'a dit et comme le professeur Delfraissy l'a rappelé. Et on a compris que le port du masque, contrairement à ce qu'a dit Monsieur Salomon, est utile et fondamentalement conseillé en toute épreuve et notamment dans les milieux confinés.
Alors le professeur Delfraissy, il a dit aussi tout à l'heure qu'on a manqué d'un comité citoyen pour construire la décision du déconfinement. Vous en pensez quoi à l'heure où la Convention citoyenne sur le climat justement rend ses conclusions? C'est possible d'avoir cette démocratie dite continue en cas de crise sanitaire?
Je pense en tout cas qu'un comité citoyen ou un comité éthique est nécessaire, parce qu'on a eu beaucoup de décisions à prendre pendant ce confinement qui ont été lourdes de sens, notamment d'un point de vue éthique. Je vous prends juste deux exemples. Ne pas assister à un enterrement. Ne pas vivre son deuil naturellement, c'est très difficile pour une famille. Deuxième exemple très concret, quand vous, on s'est trouvé avec des portes des EHPAD qui étaient fermées, avec des droits de visite interdits et parfois strictement encadrés, eh bien là aussi c'est de la détresse morale, c'est des syndromes de glissement. Et donc toutes ces questions-là, oui, un comité citoyen ou un comité éthique, c'est d'ailleurs le sens de notre proposition de loi à l'Assemblée nationale jeudi prochain, qui visera à ce qu'on puisse avoir cet avis éthique sur ces sujets fondamentaux, parce que même en période de crise sanitaire, l'éthique ne doit pas être absente.
Dans cette articulation entre la politique et la science qu'a révélé cette crise, hein, finalement, est-ce que vous pensez qu'il faut sanctuariser ce conseil scientifique mis en place par le président Macron? On entend par exemple que la Chine, à Pékin, Pékin est en voie de se reconfiner. Donc il faut garder cette instance.
Le professeur Delfraissy l'a dit très clairement, cette instance va s'arrêter début juillet, mais elle devra certainement être renouvelée et repensée. Il nous faudra certainement une instance scientifique qui permet d'avoir ce lien à une condition. C'est que le scientifique, il est là pour donner des avis. Et le politique, il est là pour prendre des décisions. C'est la seule frontière qui est absolument indispensable. Mais oui, un comité scientifique, parce qu'il a été utile, il a été nécessaire. On l'a vu pendant cette crise. On en a eu besoin parce que parfois, il y a des difficultés administratives, il y a des lourdeurs technocratiques. Mais par contre, la décision appartient au politique.
Alors Damien Abad, la vie politique reprend ses droits. Le deuxième tour des municipales aura lieu la semaine prochaine. Au premier tour, la droite et le centre ont conquis près de 60% des villes de plus de 9000 habitants. Ce sont les chiffres du président de votre parti, hein, Christian Jacob. La convalescence, elle est terminée après la déroute des européennes?
Ce qui est sûr, c'est que ça montre que nous sommes un parti ancré sur les territoires, ça montre que nous sommes liés et connectés avec la population, et ça montre que celles et ceux qui ont porté les couleurs de la droite lorsqu'ils ont été maires ont été réélus largement. Et donc oui, c'est une victoire importante ce premier tour. Il faut désormais transformer l'essai au deuxième tour. Il y a des villes aussi importantes avec des matchs, des duels serrés. Et ce que je souhaite, c'est une mobilisation forte de la population.
Alors des villes importantes, il y a des objectifs de conquête. Hein, le 28, Metz, Orléans, Montélimar. L'inquiétude, c'est Marseille. Martine Vassal est arrivée deuxième au premier tour. Et puis elle est empêtrée dans une affaire de soupçon de procuration frauduleuse.
Écoutez, moi j'apporte tout mon soutien à Martine Vassal. Lui rappeler toute la confiance que nous avons. C'est une femme formidable qui a présidé le département des Bouches-du-Rhône avec une grande qualité et de grandes compétences. J'ai bien compris que dans cette campagne à Marseille, c'était une campagne un peu parfois de caniveau, de bas étage, dans lequel
il y a eu des perquisitions quand même au siège des Républicains à Marseille.
Sur ça, je ne juge pas. J'ai un principe simple, c'est que pour moi, il faut bien séparer la justice de la politique. D'ailleurs, l'affaire Fillon nous le rappelle. encore aujourd'hui quand on a vu les déclarations du procureur. Je pense que ça serait sain dans notre famille politique. Donc s'il y a des choses, la justice le dira. Moi, j'analyse le terrain politique. Et sur le terrain politique, c'est une femme battante, courageuse, qui mérite la confiance des Marseillais.
Dernière question, abstention record au mois de mars dernier, hein, au premier tour, 55% environ d'abstention. Vous pensez que les citoyens vont se remobiliser pour ce deuxième tour ?
Je l'espère, ça sera très difficile parce que on voit bien qu'il y a beaucoup d'autres priorités, mais c'est important parce que la démocratie locale, c'est tout ce qui permet tout simplement d'améliorer le cadre de vie et le bien-être. Donc moi, je souhaite une participation et une mobilisation forte de l'ensemble des Français.
Merci Damien Abad, chef de file des députés Les Républicains, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne Fauquemberg ainsi qu'à Yves Lehorse pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, à l'exception du pourtour méditerranéen où l'ensoleillement sera de rigueur, à peine contrarié par quelques bancs de nuages élevés partout ailleurs. Le ciel restera instable, voire menaçant, avec de la grisaille et des averses parfois orageuses. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.